André m'a dit « Est-ce que tu veux bien me rejoindre ?» J'avais presque le choix. J'ai presque hésité. J'ai presque hésité parce que le message de ce matin, une fois encore, c'est un message difficile. C'est un message difficile. Nous allons prendre le même texte que celui que nous avons pris la semaine passée. Alors pour ceux qui étaient là la semaine passée et qui sont venus ce matin, vous êtes des courageux. Alors ça me réjouit. La semaine passée, nous avons pris le début de la première épître de Jean, le premier chapitre. Nous avons survolé tout ce premier chapitre, mais nous avons développé un seul point. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est question de Jean, l'apôtre Jean, qui fait face à des hérétiques, des gens qui changent la doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine du péché, et donc la doctrine de l'être humain, du salut. Et ces gens, ils prétendaient que leur comportement, leur pratique, n'avait aucune influence sur leur communion avec Dieu. Ça, c'est le premier point qu'on a vu. Et Jean, il reprend ce que ces gens disent et il se l'approprie, mais il ne dit pas « si je », il se l'approprie avec toute l'Église entière, il dit « si nous ». Donc si nous disons ce que disent les hérétiques, voilà ce qui se passe. Et nous avions vu qu'il disait « si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, mais que nous marchons dans les ténèbres, la vérité n'est pas en nous. Nous mentons et la vérité n'est pas en nous. » Et nous avions pris l'image d'une scène de théâtre dans l'obscurité et tout à coup le projecteur qui s'allume. Et quand un acteur tourne autour de ce projecteur, on ne le voit pas, on l'entend. On entend ce qu'il dit, on comprend ce qu'il dit, mais on ne voit pas sa gestuelle, on ne voit pas ses mimiques. On ne sait pas si ce qu'il dit est en adéquation avec son non-verbal. Mais une fois qu'il vient dans la lumière, on le voit tel qu'il est. Il est révélé. Il est en communion avec la lumière. Il en ressent la chaleur. Et si un deuxième acteur vient sous ce faisceau lumineux, ce deuxième acteur est aussi en communion avec cette lumière, mais ils sont en communion tous les deux. Parce qu'ils sont attachés à cette même source. Ils sont révélés l'un à l'autre. Les deux peuvent voir comment est-ce qu'ils sont habillés, comment est-ce qu'ils se tiennent. Les deux voient les mimiques du visage. Les deux ressentent la même chaleur. Et nous avions vu que quand nous disons que notre pratique de péché, le fait de pécher, quel que soit le péché dont il est question, eh bien ça n'est pas se tenir dans ce faisceau lumineux, mais c'est d'être à côté et c'est de marcher dans les ténèbres. Et quand on marche, il y a une question de mouvement. On s'éloigne de Dieu. Parce que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Voilà, je vous ai fait le résumé de la prédication de dimanche passé. Mais dans le premier chapitre de cette première lettre de Jean, il y a trois prétentions erronées de ces hérétiques auxquelles Jean réagit. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième. On va noyer la troisième dans le paquet, mais on va surtout s'arrêter à la deuxième. Et pourquoi ça va être une prédication difficile? C'est parce que il sera de nouveau question du péché. Il sera question du péché qui est inhérent à notre nature humaine. Il est question de notre nature déchue. Nous souffrons, mes amis, même si nous sommes déjà en Christ, nous souffrons de dépravité totale. De dépravation. Tu peux dire les deux mots. On est dépravé. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais il y a quelque chose qui reste. Et c'est un peu cette chose-là qu'on va aller toucher ce matin. On va aller plus en profondeur que la dernière fois. La dernière fois, c'était notre comportement. Là, on va aller un peu plus dans qui nous sommes à l'intérieur et qu'est-ce que ça induit en nous comme compréhension ou comme fausse compréhension, comme fausse mentalité. Vous savez, Ça fait quand même quelques mois, voire quelques années, où il y a des choses que j'ai dû un peu négliger chez moi. Parce que j'étais tellement prise, j'avais tellement de travail, vous connaissez la situation, qu'il y a des choses secondaires que j'ai laissées tomber, du style certaines choses de mon ménage qui font que même si on ne le fait pas, la terre continue de tourner. Et puis dans notre salon, salle à manger, avec Ritz, on a, en fait c'est une grande baie vitrée, une grande fenêtre de 4 mètres de large. Et ça faisait un moment qu'on ne voyait plus tellement à travers. Et un jour, je l'ai lavé. Mais j'étais tellement contente, mais j'étais fière de ma fenêtre. Et puis je dis à Ritz, ben voilà, aujourd'hui j'ai lavé la fenêtre. Enfin, pour moi, c'était waouh. Et puis le soir, on s'est mis à table. Et puis notre fenêtre, elle est orientée nord-ouest. Et puis le soir, ben, il y a le soleil qui se couche. Et à un moment donné, il y a ces rayons qui sont venus frappément plein dans ma fenêtre. Voilà, ceux qui rigolent, ceux qui savent de quoi je parle. Tant que la fenêtre est dans l'ombre, elle est propre. Quand les rayons de la lumière viennent montrer la réalité, c'est moins beau à voir. On a beau nettoyer, c'est toujours sale. C'est vrai que les hiéroglyphes des mouches, les traces de doigts, tout ça, ça avait disparu. Le pollen, tout ça avait disparu. Le sable du Sahara, tout ça, ça avait disparu. Mais il y avait toujours des traces indélébiles, des choses qui se sont incrustées. La pollution, même que j'ai utilisé les produits, n'essayez pas de me dire « mais tu sais si tu utilises tel produit ». Non, ce n'est pas ça mon message. Il y a quelque chose qui est resté. Et ignorer qu'il y a quelque chose qui reste, c'est se séduire soi-même. Si je dis que ma fenêtre est propre, je me séduis moi-même. Mais quel beau travail j'ai fait. Bien sûr, j'ai fait quelque chose, mais... Je vous invite à reprendre ce texte de 1 Jean. Nous allons aller, je pense, directement au verset 5. Donc, le début de cet épître, Jean reprend avec des termes à peine différents le même prologue que dans son évangile où il nous parle de Jésus-Christ. Il dit que celui que nous avons vu et connu, nous l'avons touché, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec lui et avec nous. Et au verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà le message de la semaine passée, voilà celui qui nous concerne aujourd'hui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole est point en nous. J'aimerais qu'on s'arrête à ce verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas de péché. Ça veut dire, je n'ai pas de péché en moi, ça veut dire qu'on nie cette déchéance, cette dépravité, cette dépravation. Ça veut dire, si je dis que je n'ai pas de péché en moi, ça veut dire que je considère que ma nature n'est pas déchue. C'est nier la nature de péché, c'est nier ce qu'il s'est passé en Genèse 3, dans le jardin d'Éden. Alors, pour que vous n'alliez pas trop vite dans vos réflexions en vous disant « Oui, mais le sang de Jésus m'a purifié de tout péché, donc c'est fait », est-ce que vous n'avez jamais méprisé quelqu'un dans votre cœur? Est-ce que vous avez toujours respecté les limites de la circulation? Est-ce que vous avez jamais critiqué quelqu'un? Est-ce que vous avez toujours bien géré une colère saine et sainte qui n'a pas dégénéré? Bon, j'arrête. Est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même? Nous avons tous une nature de péché, sinon toutes ces choses-là, ce serait réglé. Voilà. On part tous sur la même base. Nier la négation de notre nature de péché, c'est pourtant quelque chose que fait notre société. C'est quelque chose que nous faisons. Nier ce qui s'est passé en Genèse 3, c'est pas comprendre ce qu'est le péché. C'est quoi le péché? Eh bien, 1 Jean, toujours notre apôtre de Jean, dans sa première épître, il nous le dit au chapitre 3. Il dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève « Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. » Et si vous lisez bien le texte, tous les arbres du jardin étaient bons à voir, à manger, ils étaient succulents, tout était luxuriant, il y avait même plus que tous ces arbres. Ils disent « Mais celui-là, vous ne mangerez pas celui de la connaissance du bien et du mal, parce que si vous en mangez, vous mourrez. » Il leur a dit, vous pourrez manger de tout, mais touchez pas la plaque chaude, parce que si vous mettez la main dessus, vous allez vous brûler. Ce commandement de Dieu, il était bon. Ce n'était pas pour initier une espèce de frustration, c'était une protection. Mais Adam et Ève ont vu ce fruit. Ils ont compris qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ils en ont pris, tous les deux. Ils ont transgressé la loi. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi la répercussion quand on transgresse la loi? En Suisse, nous avons un code civil. Si vous ne suivez pas ce code civil, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous aurez des problèmes avec la loi, n'est-ce pas? Il y aura des répercussions parce que vous serez coupable. Coupable d'avoir transgressé la loi. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est le Père. Dieu, c'est l'autorité. Dieu est Dieu. Et c'est lui l'autorité qui dit à l'être humain, ne fais pas ça. Et l'être humain fait autre chose. Il est coupable devant Dieu. Alors, le fait d'être coupable engendre de la culpabilité. Et ça a été quoi les premiers effets de cette culpabilité? La honte, ils se sont cachés, des problèmes relationnels, des difficultés à gagner son pain, des difficultés à cultiver la terre. Et en plus de ça, l'être humain a été chassé du jardin d'Éden, ce qui veut dire chassé de la présence de Dieu, de la présence directe de Dieu. Et cet état-là, il demeure jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Nous sommes coupables. Mais la problématique, c'est quand on nie cette culpabilité. Ou simplement quand on l'ignore, quand on n'a pas compris ce qu'elle est. Parce que ça veut dire que quand on a des problèmes, on ne vient pas à la source du problème. Alors on met plutôt un plâtre sur une jambe de bois. Si on refuse cette culpabilité, mais puisque nous sommes coupables, si on refuse de nous confronter à la loi, pour nous, elle est ici cette loi, si on refuse de se confronter à la loi, on est en fuite. Et si on regarde notre société est en fuite. Elle est en fuite par rapport à la loi et elle s'y oppose. Alors on essaye d'expliquer cette culpabilité et tous ses effets de toutes sortes de manières, parce que notre monde va mal, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des famines, parce qu'il y a des conflits politiques, parce que les pauvres sont toujours plus pauvres, les riches toujours plus riches, parce qu'il y a tellement de difficultés dans notre monde. Alors on l'explique par des facteurs sociaux, des facteurs psychologiques, des facteurs économiques, des facteurs écologiques, des facteurs politiques. On a plein de facteurs pour expliquer cette culpabilité, mais on ne va jamais mettre le mot « nous sommes coupables ». On va chercher en surface, mais pas en profondeur. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème pour nous aussi dans l'Église. Je ne dis pas l'Église ici, je dis aussi l'Église ici, l'Église en général. Nous avons une nature déchue, nous sommes coupables et souvent nous essayons d'expliquer ce qui nous arrive. Et c'est souvent au niveau psychologique, pas seulement. On peut avoir un problème au travail et là ça va être un problème relationnel ou un problème d'injustice. Mais on essaye d'expliquer ces choses et souvent elles ne sont pas fausses. Mais il faudrait aller encore plus loin. Et tant qu'on ne va pas encore plus loin, c'est là qu'on se fourvoie. Alors on commence à se juger les uns les autres, ou à juger la personne qui nous a fait du tort. Et quand on commence à juger la personne qui nous a fait du tort, quelque part on se fait Dieu. C'est pas à nous de juger. Nous, ce qu'on a besoin du Seigneur, ce dont on a besoin du Seigneur, c'est d'être guéri du tort qu'il nous a fait, qui nous a été fait. C'est d'être restauré. Mais nous sommes dans la même nature déchue que la personne qui nous a fait du mal. Nous sommes en communion dans notre dépravation. Et ça, il faut le comprendre. Déjà, ça aide. Ça aide à prendre du recul pour certaines situations, de se dire, mais elle n'a pas reçu le Seigneur. Elle est autant dépravée que moi. Ça peut expliquer, ça n'excuse pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit excuser les torts. Mais c'est plutôt de prendre du recul et de se dire, mais moi, j'ai bénéficié d'une telle grâce. Et j'ai un Dieu qui peut venir gérer cette culpabilité. Mais de quel droit est-ce que c'est moi qui vais aller juger ? Je vais plutôt demander du discernement à mon Seigneur, comment je gère cette situation ? Quelle est la relation que je dois avoir ou non avec cette personne ? Comment est-ce que je dois lui parler ? Comment est-ce que je me mets en retrait ? Est-ce que je dois l'affronter ou pas ? Avec quel cœur ? Toujours celui-là, avec la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu. Nous avons tout reçu pour gérer ces situations. Mais si nous refusons de nous confronter à la loi de Dieu, nous sommes toujours dans Genèse 3. Nous sommes toujours dans le Jardin d'Éden. Ça va? On va un peu plus loin? Il y a quelque chose d'encore plus grave. Et on est toujours dans Genèse 3. Si on nie le péché, si on nie notre nature de péché, si on nie qu'il y a eu cette transgression qui nous colle à la peau, parce que c'est facile de dire oui, il s'est passé ça. Mais si on nie que ça nous colle à la peau, vous savez, Paul il le dit hein, en 1 Corinthiens 15, il dit car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Pour l'instant, on en est toujours dans tous meurent en Adam. Si on nie que cette chose-là, ce péché, il nous colle à la peau et que nous sommes toujours affectés par cela, nous sommes en train de redéfinir certaines choses. Adam et Ève, puisqu'ils ont transgressé la loi, ils se sont dit que ce n'était pas grave, parce que s'ils avaient compris que c'était grave, ils n'auraient pas posé la main sur la plaque, ils ne l'auraient pas fait. Ils se sont dit que la parole de Dieu, en fait, ils ne l'ont pas pesée vraiment pour le poids qu'elle avait. Ils ont redéfini le péché. Ils ont donné leur propre définition du péché. Et quand on redéfinit le péché, on redéfinit qui est Dieu. Et quand on redéfinit qui est Dieu, on se redéfinit soi-même. Faisons Dieu à notre image. Mais c'est ce que fait la société. Nous apprenons à devenir nos propres dieux. Faisons Dieu à notre image pour que Dieu fasse les choses dont nous avons besoin. Mais nous, on décide nous-mêmes. Nous décidons nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Dans la société, c'est tellement flagrant qu'on décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ça rejoint la parole de Paul, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Le mal est appelé bien, ça devient de plus en plus flagrant. Quand on regarde tout ce qui concerne la sexualité, la manière de gérer la sexualité, même dans l'Église, c'est devenu problématique. La chasteté n'est pas comprise. La fidélité n'est pas comprise. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi les jeunes se posent la question parce qu'ils ne sont plus enseignés. Pourquoi est-ce qu'on demande à un jeune d'attendre le mariage pour consommer une relation? Parce qu'on ne sait pas que le corps, il est lié à l'âme, à l'esprit, et que quand on a une union ensemble, c'est une alliance de sang. Et qu'une alliance de sang, elle a des répercussions éternelles. Toutes ces choses-là, on ne les comprend pas. La société encore moins. Et c'est pour ça qu'on voit tout ce qui va de moins en moins bien. La société dit que ce qui est bien est mal. On le voit dans l'éducation des enfants, dans les livres qui sont distribués dans les écoles, avec des sorcières, des machins, etc. Mais la société dit que le bien est mal. De plus en plus, on repousse l'évangile hors de notre code civil, hors de nos mœurs, hors de notre mentalité. On impose des idéologies. Nous sommes toujours dans Genèse 3. Mais dans l'Église aussi. Et c'est là que c'est grave. C'est là que ça doit nous parler. On a besoin de comprendre ce qui se passe dans la société pour orienter nos prières et notre positionnement, pour ne pas se laisser influencer. Mais on a besoin de comprendre pour nous-mêmes ce que ça veut dire. Quand moi, je redéfinis ce qu'est le péché, ça veut dire que je me fais Dieu quelque part. Je fais Dieu à mon image. J'aimerais tellement que le Seigneur règle tous mes problèmes. C'est brûler une étape. On attend que Dieu soit à notre service. On veut être notre propre Dieu et on refuse d'aller voir c'est quoi le nœud du problème qui fait que je tourne en rond et parfois même que je suis dans une espèce de spirale qui m'attire par le bas. C'est parce que je ne veux pas aller voir que j'ai une nature de péché qui pervertit ma façon d'appréhender les choses, qui modifie ma mentalité. Il faut que je comprenne que je ne suis pas capable de décider moi-même pour ma propre vie, pour mon propre traitement, pour ma famille, pour mes études, pour la direction d'une église. Il faut que je comprenne que ce n'est pas moi qui peux décider ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu me le dit. Et il me le dit de toutes sortes de manières dans sa parole. Il ne nous a pas laissés sans rien. Il nous le dit. Quand tu prends une décision, va un peu potasser ce bouquin, va un peu regarder ce qu'il y a dans ces pages et regarde si ta décision elle est en adéquation avec la parole de Dieu. Je vais me débrouiller tout seul. Oh oh. Oh oh. Est-ce que Dieu ne nous parle pas de communion? Est-ce qu'il ne nous parle pas de famille? Est-ce qu'il ne nous parle pas de prier les uns pour les autres? Est-ce qu'il ne nous dit pas, si vous êtes dans le besoin, allez chercher les frères, confessez vos péchés, ils vont vous oindre d'huile et prier pour vous? On va un peu plus loin. Le verset suivant, il est un petit peu plus sympathique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point en nous. Là, je passe vite fait. Si on dit qu'on ne pratique pas le péché, on fait Dieu menteur. Ça veut dire que tout ce qu'elle a dedans, on n'y croit pas. Voilà ce que ça veut dire. Mais juste au milieu. Au milieu de ces deux fausses prétentions. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, la fidélité de Dieu, ce n'est pas par rapport à nous. Ce n'est pas que Dieu m'est fidèle. Ça, c'est la conséquence. La première chose qu'il faut comprendre, Dieu est fidèle à son alliance. Parce qu'il a fait alliance. Que Jésus-Christ a concrétisé cette alliance par son sang et que nous sommes sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ est fidèle à cette alliance-là qu'il a concrétisée à la croix. Et parce qu'il est fidèle à cette alliance-là, chaque fois que je vais confesser mes péchés, je suis pardonné. Ce n'est pas à cause de moi C'est à cause de la fidélité à son alliance. Et parce que jour et nuit, 24 sur 24, Jésus-Christ, en ce moment même, intercède auprès du Père. Ça veut dire qu'il présente constamment son sang pour dire « J'ai payé, c'est fait. J'ai payé, c'est bon. J'ai payé, c'est OK. » Jésus est fidèle à son alliance. Et c'est pour ça que nous pouvons nous présenter devant lui autant de fois que nécessaire. Il ne se lassera jamais. Ça ne veut pas dire « je vais faire ce que je veux, puis après je vais demander pardon ». Ce ne sera déjà pas une vraie repentance. Et le Seigneur est lumière, il saura voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il y a une mentalité de se dire « mais en fait, ce n'est pas par rapport à moi, je n'ai pas de mérite. J'ai juste un endroit de grâce. » Et aller dans sa grâce, m'aplatir devant lui, c'est tout ce qu'il demande. C'est ce qu'il va accueillir. C'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il attend. Alors je peux vraiment y aller librement. Par contre, je me fais Dieu quand je refuse d'aller à cet endroit-là. Il est juste pour nous pardonner. C'est pas dans le sens que Jésus ne se trompe pas en se disant « bon, qui c'est qui s'est vraiment repenti pour savoir on n'est pas là-dedans. Il est juste, c'est Jésus le juste qui est mort pour des injustes. Jésus seul est sans péché. Il était le Fils de Dieu, qui sait, il est toujours, mais avant que Jésus n'existe, il était le Fils de Dieu sans péché. Dieu vient dans un homme, il s'incarne, il prend la forme d'un homme et il est sans péché, Jésus-Christ. Il se donne, il est sans péché, il se sacrifie, il prend les péchés du monde, il les engloutit dans la mort, il les détruit et il retourne sans péché auprès du Père. Jésus est le seul qui soit juste et qui soit sans péché. Alors il est fidèle et juste pour nous pardonner, remettre notre dette. Cette dette d'être coupable devant lui, c'est déjà pardonné. Si nous appartenons au Seigneur, notre nature déchue, tout ce que ça comporte est déjà pardonné. Ça, c'est fait. Elle agit encore, mais elle est déjà pardonnée. Ça veut dire que déjà notre salut, il est acquis. Il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On aimerait tellement que le péché soit résolu en nous. Allez, une fois pour toutes, hop. Pourtant, le sang de Jésus, il est tellement puissant. Bien sûr. Mais nous sommes dans un tel état que nous ne pourrions pas supporter d'être purifiés d'un coup totalement. Le seul moment où on va le supporter, c'est quand Jésus va revenir. Ce sera au moment du jugement. Là, il y aura un véritable tri. Nos œuvres seront jugées, mais nous, nous serons sauvés. Mais jusque-là, nous ne pouvons pas accéder à sa lumière inaccessible. Nous serions consumés d'un coup. C'est trop pour nous. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce texte ? Comprendre la fidélité du Seigneur. Comprendre que lui seul et personne d'autre ne peut purifier nos péchés. Lui seul le peut, pardon. Personne d'autre que lui ne peut purifier, pardonner nos péchés. Et s'il peut le faire, c'est lui aussi qui peut nous guérir. C'est lui qui peut nous restaurer. C'est lui qui nous remplit de son esprit, qui renouvelle notre intelligence, qui nous explique le comment faire, comment comprendre sa parole pour notre propre vie, pour notre famille, pour notre lieu de travail, pour notre quartier, pour notre quotidien. Soyons promptes à aller nous repentir, reconnaissant toujours que notre nature de péché est toujours présente et que quelque part ça nous interdit de juger notre voisin, notre vis-à-vis. Mais ça ne nous empêche pas de le remettre au jugement de Dieu. Laissons Dieu être Dieu. La semaine passée, j'ai intitulé mon message « Marcher dans la lumière ». Aujourd'hui, j'ai envie de dire « Persévérer dans la lumière ». Persévérer dans la lumière, voyant les choses en face. Marchons dans la lumière, restons dans la lumière, recherchons cette lumière, soumettons-nous à la lumière de Dieu. Plutôt que de se séduire nous-mêmes. Si vous avez un doute, allez laver vos fenêtres. Seigneur, cette prédication, elle est difficile, ton message est difficile, et en même temps, il y a tellement de grâce. Je te demande de nous donner cet esprit de révélation qui nous fasse comprendre l'abondance de ta grâce, la puissance de ton sang qui est suffisant. Je te demande aussi de nous donner la conviction de péché dont nous avons besoin. Illumine les yeux de notre cœur. Montre-nous dans quel état nous sommes. Aide-nous à comprendre qui nous sommes devant toi. Sachez que l'Éternel est Dieu, tu es Dieu, tu es le seul Dieu et nous ne le sommes pas. Mais nous t'appartenons, nous sommes sous ta protection et sous ta grâce, sous ton pardon. Seigneur, merci. Merci pour ton sang qui est suffisant. Seigneur, ce matin, moi je te demande de bénir tous mes frères et sœurs qui sont ici. Et pour tous ceux pour qui ça bataille, je te demande que dans les temps qui viennent, ils soient délivrés de tout ce qui les oppresse. Et je dénonce devant ton trône de grâce tous les esprits supérieurs qui manipulent certains de mes frères et sœurs. Je dénonce l'orgueil, je dénonce la rébellion, je dénonce la suffisance. Et je te demande que dans les temps qui viennent, ces personnes puissent discerner ces esprits et les chasser. Je te demande de fortifier ton Église pour que nous puissions entrer dans un moment de délivrance, dans un moment où tu visites ton Église et que tu la délivres. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande d'ébranler les forteresses, que les murs tremblent et que les murailles tombent, parce que toi seul, tu es Dieu au-dessus de toute la terre. Tu es Dieu, tu es le seul Dieu, et c'est ton nom que nous confessons. Nous confessons que nous ne sommes pas Dieu. Merci pour ta puissance. Merci pour ta lumière. Merci pour ta gloire. Ta majesté remplit les cieux des cieux. Rien ne peut contenir ta gloire. Merci Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Sois glorifié en ton nom puissant, Jésus. Amen.